France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, dans les bandes du rock. Épisode 6, les ondes du métal. Nous avons commencé cette série avec ça. Souvenir, souvenir. Nous la terminons avec ça. Vous voyez le chemin parcouru. Ce que cela nous dit, c'est que sous l'étiquette rock, on range des styles très différents et même quasiment opposés. Car peu de temps après ces années où tous les garçons et les filles de l'âge de Françoise Hardy se promenaient dans la rue Depardieu, on commençait à naître dans les bas-fonds de Birmingham les prémices de ce qui allait devenir le métal. Voilà, à l'évocation du mot métal, on a tout de suite envie d'entendre un riff de guitare, c'est absolument pavlovien. Nous sommes donc à la toute fin des années 60 et le début de la vague métal est anglo-américaine. On y trouve des influences de punk et de rock progressif, tout autant que de musique folklorique, figurez-vous. Dès le départ, ce que l'on appelle alors le heavy metal se veut comme une sous-culture, un rameau à part dans le grand arbre de la jeunesse rock qui refuse de rejoindre la meute. On y trouve surtout des hommes blancs, issus de la petite classe moyenne ou de la classe ouvrière, des garçons et quelques filles aussi, qui refusent le monde dans lequel ils vivent, rejettent les règles qu'on leur a assignées. Les grands noms de cette première période s'appellent Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Aerosmith ou Alice Cooper, même si certains de ces groupes s'apparentent davantage à du proto-métal qu'à du métal pur et dur. C'est le cas du groupe français Trust, qui naît à Nanterre en 1977. Un groupe de hard rock, certes, mais qui va influencer profondément la scène métal hexagonale. Dans la salle des archives, pas facile de retrouver une interview de Trust à ses débuts, et c'est finalement sur l'étagère de FR3 Radio Midi-Pyrénées que nous avons déniché ce qui nous semble être leur première apparition sur les antennes du service public. C'était donc en janvier 1980 à Toulouse.
Bernie et Raymond, bonjour, vous êtes les porte-parole du groupe Trust.
Oui.
Alors, est-ce que vous vous situez dans la même lignée que Téléphone et Star Shooter ?
Pas du tout.
Rien à voir.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, déjà, je pense public différent, échelle d'âge différente. C'est-à-dire du lycéen jusqu'au... Ouais. Jusqu'à la personne de 40-50 ans. Ce qui est de plus en plus courant maintenant dans les concerts. La musique aussi. Et puis les textes. Enfin, je crois que c'est un tout.
Oui, mais remarquez, Téléphone disait la même chose aussi. Bah alors, ces textes, justement, ils sont quand même assez agressifs. Alors, qu'est-ce que vous dénoncez exactement votre vie ?
Il n'y a aucune dénonciation, c'est juste une constatation triste.
Il n'y a rien de pessimiste, en fin de compte. C'est juste... une image de la vie telle qu'elle est, quoi.
Corentin Charbonnier, vous êtes anthropologue, spécialiste des cultures métal, et vous avez été co-commissaire de l'exposition qui s'est tenue à la Philharmonie de Paris en 2024, intitulée « Metal Diabolus in Musica ». Est-ce que Trust, qu'on vient d'entendre ici dans un extrait en archive, c'est l'une des origines de la scène métal en France ?
Historiquement, ça fait partie de ces premiers groupes qui sont apparus sur le territoire français et c'est surtout l'un des premiers qui a réussi à avoir une carrière absolument énorme et internationale. Je pense que c'est aussi le fantasme de Trust avant les groupes comme Gojira qui ont fait des carrières internationales. C'était Trust qui a été repris en anglais par un groupe comme Anthrax, ce qui montrait en fait que non seulement on avait une scène en France, mais une scène florissante et qui existait et qui continue d'ailleurs d'exister.
Ça commence quand même en Angleterre, cette histoire du métal.
Oui, on se rend compte en fait qu'il y a une sorte de bastion à Birmingham avec de nombreux groupes de rock, dont l'un des plus connus était Black Sabbath, qui a créé en fait ce son dit du heavy metal, donc qui était la première vague, en incluant une temporalité spécifique, un chant très spécifique qui est celui de The Osbournes, le jeu de Tony Iommi, et ils ont marqué entre guillemets l'apparition d'un style qui a été vite suivi à tel point qu'à Birmingham, on a parlé d'une scène de Birmingham et que l'Angleterre a tellement marqué les esprits qu'on a parlé de cette New Wave of British Heavy Metal des années 80 avec une multitude des groupes qui sont tous d'ailleurs encore présents et qui jouent d'ailleurs encore aujourd'hui.
Donc... Est-ce qu'on arrive à saisir pourquoi ça se passe à ce moment-là, dans cet endroit-là, quelles sont les racines au fond de cette musique nouvelle ou de ce dérivé du rock?
Alors, c'est toujours intéressant de se poser la question sous l'angle sociaux et entrepôt. On se rend compte en fait que c'est une musique de jeunes, plutôt des classes ouvrières au départ, qui en ont marre, on va dire, de ce mouvement hippie qui pense que tout le monde est beau et rose, qu'on va s'aimer les uns les autres.
Alors, c'est une réaction au mouvement hippie.
Oui, c'est en fait le mouvement hippie dont tous les articles que l'on peut avoir aujourd'hui dans les sciences sociales nous montrent que c'est devenu un mouvement plutôt de petits cadres blancs de classe moyenne. Et justement, le métal, lui, apparaît comme un mouvement vraiment plutôt contestataire, issu de la classe populaire. D'ailleurs, on le voit, hein, il travaille en usine pour la plupart.
Et Birmingham, c'est une ville ouvrière aussi.
Qui est un énorme bastion ouvrier, c'est, qui est passionnant d'ailleurs à étudier comme territoire. Et on, ces jeunes de ces quartiers populaires qui ont du boulot... alimentaire, entre guillemets, décide de faire une sorte de rock beaucoup plus énervé, beaucoup plus sombre, très dénonciateur au départ de, bah, des conditions de cette jeunesse-là. On le voit avec des textes sur la guerre du Vietnam, sur la peur de la guerre nucléaire. Les premiers albums de Sabbath, c'est reprendre tout ce qui fait peur à l'être humain pour le remettre en musique et dénoncer une sorte de paysage un peu sombre, un peu triste, comme le disaient les membres de Trust, et le donner à voir et en fait ne pas se morfondre dessus, mais en faire une source d'inspiration. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. Et quand est-ce que ça arrive en France? Est-ce que la transplantation de l'autre côté de la Manche met du temps à se faire? En fait, c'est très rapide, contrairement à ce qu'on croit, même si c'est peu médiatisé. C'est-à-dire que dès les années 70, on voit qu'il y a une évolution vers les États-Unis et en même temps vers le reste du continent européen. Donc on le voit à la fin des années 70, les premiers groupes, dont Trust, et avec une vague très florissante dans les années 80 françaises et américaines d'ailleurs. Donc on se retrouve avec donc du heavy metal, qui est un peu la souche, ce qu'on appelle aussi le hard rock. Il y a quand même un énorme lien. Et ces ramifications beaucoup plus énervées qui vont être le speed et le thrash metal dans les années 80, avec Metallica aux États-Unis dès 81 par exemple. En France, on pourrait citer Loudblast, qui fête ses 40 ans cette année.
La scène française de métal s'est développée autour de groupes comme Sortilège, Aggressor, Loudblast, une scène qui devient plus extrême dans les années 80 avec l'avènement du death metal. Ces noms sont moins connus que d'autres groupes de rock de ces années-là, comme si le grand public n'avait pas encore découvert ce genre, ou comme s'il y avait une volonté des metalheads de rester à l'écart de la foule. Quentin Charbonnier, est-ce que vous diriez qu'il y a une volonté justement des metalheads à ce moment-là de se distinguer encore plus des autres courants du rock et d'affirmer une singularité qui fait qu'il peut y avoir un rejet du grand public du mainstream?
Je pense que c'est un jeu qui est constant dans cette culture métal, de vouloir d'une part être connu et en même temps de ne pas devenir une culture de masse entre guillemets.
Un peu schizophrène.
C'est assez fou.
Dans les années 90, d'autres groupes surgissent à la frontière entre le métal et d'autres styles rock. C'est le cas par exemple pour No One Is Innocent. On les écoute dans cette archive de l'émission Pollen avec Jean-Louis Foulquier et Didier Varro le 22 avril 1994.
No One Is Innocent ce soir, tout à l'heure à minuit exactement au Germinal. Je ne me trompe pas?
Non, pas du tout.
Voilà. Et c'est complet déjà ou pas?
Il paraît que c'est complet, ouais.
Ah, oui.
Ce qui est incroyable, c'est que l'histoire a à peine un an, en fait.
Un an.
C'est ce qui est fou. Et quand vous êtes programmé, par exemple, comme un festival comme Bourges, le lendemain, vous décidez de jouer à 20 km, c'est ça, à peu près?
Demain, on joue à Preuilly, dans un petit bar. Faut pas trop le dire, mais
ah
enfin bon...
On n'a pas le droit?
Ça y est, c'est fait.
Il
voilà.
Ouais,
y a des tracts qui sont distribués dans
non, mais ça, c'est un peu notre démarche aussi. Enfin, je veux dire, c'est complet ce soir. Il y aura peut-être des gens qui n'auront pas l'occasion de nous voir. Donc voilà, on organise un concert dans un bar à Preuilly, à 20 km d'ici.
Oui, c'est une bonne région en plus pour fréquenter les bars. Hein.
Ouais. C'est pas trop notre style en plus.
De fréquenter les bars?
Non, pas vraiment.
Mais d'y jouer.
D'y jouer, voilà.
Après, c'est tout. Bon, bon concert pour ce soir.
Alors la personne qui parle dans l'archive a été perdue dans l'indexation. Corentin Charbonnier, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette archive?
En fait, les années 90 en France, on a vraiment un essor de nouveaux styles de métal, très fusion. Alors, vous avez mis No One, et je pense au triptyque gagnant, c'est-à-dire No One, qui est toujours d'actualité, qui joue encore d'ailleurs, qui est sur une nouvelle tournée cette année. Vous avez à la même époque deux groupes qui sont très importants de cette scène-là, c'est Mass Hysteria, qui est devenu aujourd'hui peut-être le deuxième plus gros groupe de métal français derrière Gojira, et vous avez un troisième groupe qui s'appelle Lofofora dans les années 90, qui a la particularité d'avoir un... Allez, on va dire des liens un peu plus importants avec les scènes underground et punk, mais qui ont été les premiers à avoir des discours très politiques aussi dans cette époque.
Inlassablement, la voix des médias nous renvoie les exploits de vieux ponts du monde qui bondent des lois. Ceux qui meurent de froid cet hiver, quelle affaire, considérés comme des rapporteurs de peste, en subissent le vice de texte, sous prétexte d'expulsion, d'exclusion, problème d'insertion, d'intégration, jusque la perplexe. Je me vexe qu'on leur cloue le bec, passe-moi le marteau et les clous. À vous remettre le tour, vous me gavez le mou. Que vous avez vu.
En fouillant dans les archives des radios du service public pour préparer cet épisode, j'ai été frappé par le très petit nombre d'enregistrements et d'interviews de groupes métal. Plusieurs raisons à cela, à mon sens. D'abord, l'image des Metalhead a probablement tenu à distance les radios les plus mainstream. France Bleu, par exemple, n'en diffuse pas dans sa programmation habituelle, car longtemps, le métal a été jugé trop clivant pour cette radio qui se veut rassembleuse. Sur FIP, on en entend aussi très rarement. Le chant saturé n'est pas vraiment la signature habituelle de la station. Il existe, cela dit, une web radio de FIP spécialement consacrée au métal. Dans les archives de France Inter, on trouve quelques émissions qui ont invité des groupes de métal français, mais cela ne remplit pas non plus des kilomètres de rayonnage. Pourquoi si peu d'archives? Eh bien, toujours pour la même raison, jusqu'à une date assez récente, on ne conservait pas les émissions de flux pour des questions de place, et il ne semblait pas nécessaire de garder les programmes musicaux, car de toute façon, il y avait des disques. Finalement, de manière assez inattendue, c'est dans les archives de France Musique que j'ai trouvé le plus de documents, et notamment une série étonnante de juillet 2009 intitulée « Conservatoire du métal ». Elle avait été produite par le professeur de culture musicale Louis Chrétienneau, et voilà par exemple ce qu'on pouvait y entendre.
Donc voilà un exemple beaucoup plus mélodieux et sensible. En revanche, en ce qui concerne la santé vocale, il faut vraiment envisager ce chant-là comme un chant de grand sportif. C'est un peu comme le chant lyrique, c'est-à-dire qu'il faut entraîner le corps et la musculature phonatoire à ces sons-là. Donc il est hors de question de partir tout de suite sur 3 heures de chant saturé. Il faut faire comme pour les coureurs de marathon. On court un petit peu, on court pas longtemps les premiers jours, les premiers mois, et puis on allonge au fur et à mesure le temps et les distances. C'est exactement la même chose pour le chant saturé. On va faire 5 minutes, 10 minutes de chant saturé par jour dans un premier temps, puis au bout de quelques mois, on passera à des demi-heures, et plus tard, 2 heures, 3 heures de chant saturé par jour, ce qui est déjà, là, commence à être beaucoup. Mais il faut absolument pas partir tout de suite sur beaucoup de temps de ces sons-là.
Quentin Charbonnier, sur France Musique, on prend vraiment le métal au sérieux?
Je pense que le métal devient de plus en plus acceptable, entre guillemets, de la part du grand public, du fait aussi que le public ne soit plus le même qu'à 20 ans, parce qu'on parlait des changements dans le rapport homme-femme, moi je pense que c'est surtout la moyenne d'âge qui évolue méchamment.
En s'abaissant?
En se vieillissant. Là aujourd'hui, les moyennes d'âge au Hellfest, c'est 39 ans et demi, au Motocultor, c'est 35 ans, la plupart de, si je prends le Hellfest, on est à 50% de cadres, donc c'est des gens qui, entre guillemets, ont une vie normale, classique, un boulot, une famille. Donc ça fait beaucoup moins peur que cette jeunesse révoltée qu'on pensait avec les cheveux longs, 15 ans, le look habillé en noir, etc. Et le renouvellement du public, il est peut-être en train d'arriver actuellement. C'est-à-dire qu'on a eu des scènes très vivantes jusqu'aux années 2000. Et là, on se rend compte qu'il y a quelques groupes qui sont en train de percer le marché dans des mouvances qui n'étaient pas ni attendues. Je pense à la scène deathcore, entre autres. Donc on a eu peut-être des creux de vagues, mais c'est surtout qu'on se rend compte que le public ne consomme plus la musique de la même façon.
Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont la radio de service public s'est fait l'écho tout au long des années de cette mouvance métal?
Je pense qu'on a été un phénomène de foire dans les grands médias pendant beaucoup d'années.
Dans tous les grands médias,
dans tous
les
grands
médias ensemble.
Très généralement, jusqu'au début des années 2000. Et je trouve qu'il y a une prise au sérieux qui apparaît vraiment sur le début des années 2000, voire 2010, effectivement. Je pense que les radios ont servi, mais parce que historiquement, le métal vient aussi de ces radios pirates. On avait beaucoup de gens qui, étant sur une ancienne radio pirate à côté, on voit aussi cette historicité, c'est-à-dire que ces musiques-là étaient diffusées sous forme de radio. On a quand même cet ancêtre un peu du tape trading, on échangeait les cassettes, on gravait nos CD pour partager la musique. Et la radio, c'est un moyen de partage avant tout. Et je pense qu'on a encore ce côté en tout cas, pour la génération qui a grandi avec la radio, je pense qu'on est très attaché à la radio. Donc effectivement, on a des percées avec par moments des super épisodes. Je pense à France Bleu qui a fait des super articles sur le Hellfest et des super émissions. Capucine Fray a fait des épisodes entiers sur le Hellfest, le public et son implantation dans Clisson. Et le service public a beaucoup joué là-dessus, parce que sinon le privé ne l'avait pas fait. Enfin, à part quelques émissions de télé où on faisait venir des groupes à nulle part ailleurs dans les années 90... Sinon, c'était des clips entre 2h et 4h du mat sur M6 dans les années 90 où il fallait enregistrer sa VHS ou se lever.
Nouvel extrait de cette série de France Musique, Conservatoire du Métal.
En résumé, la quinte, c'est le son fondamental multiplié par 1,5. Et c'est une consonance parfaite comme l'unisson et l'octave, parce qu'ils partagent avec le son fondamental un nombre significatif d'harmoniques communes. Le rock metal l'a bien compris, puisque les accords de guitare qu'il crée, certes avec un son très distordu, sont quasi exclusivement composés de trois ingrédients, la fondamentale, sa quinte et son octave. Résultat, on obtient des sons accords qui sonnent comme si l'on soulignait de façon artificielle et redondante les harmoniques naturelles du son fondamental qui donnent cette impression de puissance caractéristique du métal.
Il y a quelque chose d'un peu amusant dans la manière presque institutionnelle dont cette émission parle d'une musique dont le fond, l'esprit est totalement contestataire. Et il y a quelque chose qui sonne un petit peu étrangement, vous ne trouvez pas ?
Contestataire, oui et non. Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'on a une part du métal qui est très contestataire et une autre qui est vraiment dans l'establishment pur et dur.
Ah, dans l'establishment ?
Quand on regarde aux États-Unis, le métal est intégré. Enfin, je pense qu'on a une réception si différente en fonction des pays. En France, on est vraiment sur une musique un peu pensée comme underground. On lui attribue toujours le terme de contre-culture. Je ne suis pas sûr d'un point de vue purement sociologique qu'on soit encore là-dessus. Alors que si vous allez dans des pays scandinaves, ou même aux États-Unis, vous passez d'un Lady Gaga au métal en deux secondes. D'ailleurs, Lady Gaga joue avec Metallica, ça choque personne. Alors que chez nous, vous faites la même chose, vous nous mettez une variété de pop qui fait un concert de métal. Ça passera pas.
Le rapport métal France Musique, c'est aussi le rapport à la musique classique qui est très présent justement dans le métal et chez les métalheads.
Je pense que la plupart des musiciens qu'on les interroge, en tout cas, nous disent oui, mais nous on a une éducation musique classique dans notre enfance. Donc on a joué de la musique classique, on est passé par les écoles de musique ou le conservatoire, donc ils ont appris les bases, de solfège et de rythmique pour une part d'entre eux. Et après, il y a aussi ce côté valorisant, c'est-à-dire que ce côté acceptation et représentation socialement positive du métal, elle passe aussi par ce rapport au classique.
Le métal, c'est à la fois un courant musical, mais aussi un courant esthétique. Quand je vois dans la rue quelqu'un porter un t-shirt dans le style métal, je ne sais pas vraiment à quoi il fait référence. En gros, je n'ai pas les codes. Parce que le t-shirt est un signe. Porter celui-ci ou celui-là n'est absolument pas anodin. Il est l'indice d'une allégeance à un groupe, ou bien une façon de dire « j'y étais » en référence à un festival ou à un autre, comme un certificat de bonne métal attitude. Corentin Charbonnier, le t-shirt de Metalhead, qu'est-ce que ça raconte au fond ?
Le look du métalleux, c'est une identité que l'on donne à voir aux autres, alors qui va aussi bien créer de la distanciation sociale, dans le sens où effectivement, si on n'a pas les codes, on va pas des fois réussir à déchiffrer le logo du groupe. D'ailleurs, on se rend compte que plus c'est compliqué à lire, plus on sait que ça va restreindre le nombre de personnes qui sont capables de le lire. Et en même temps, c'est un signe d'appartenance dans l'entre-soi, c'est-à-dire qu'entre nous, on est capable de reconnaître un t-shirt, parfois même de reconnaître la tournée à laquelle il appartient, et il y a une valeur symbolique différente. Le look est une partie essentielle de cette musique métal parce que, un, ça nous permet de s'affirmer et de se reconnaître entre soi, il y a une identité socialement positive, mais c'est aussi parce que dès le départ, les groupes ne vivent pas de leur musique, et pour vivre de leur musique, le merchandising, il est hyper important, donc il faut soutenir ses groupes, et soutenir son groupe, c'est l'album et le t-shirt qui va avec.
Or, c'est vrai que c'est un business quand on sait que 73% des festivaliers du Hellfest repartent avec un t-shirt, c'est probablement l'un des festivals au monde où ce phénomène est le plus important.
Totalement. C'est-à-dire que sur les statistiques qu'on fait du festival, on sait que oui, c'est plus de 70% qui repartent avec d'ailleurs minimum un t-shirt. Ça, c'est hyper intéressant. C'est que des fois, on repart aussi avec le doudou pour le bébé, on repart avec la casquette, on repart avec la serviette de plage. Et les groupes aujourd'hui savent que c'est aussi une manne économique pour pouvoir survivre. On a un public aussi qui se donne beaucoup et qui donne beaucoup à l'appartenance à son groupe et donc va acheter. Je crois que c'était ACDC qui était sorti en même temps qu'Aya Nakamura. Aya Nakamura, c'était la première des ventes parce qu'il y avait le stream et ACDC, c'était de la vente physique.
Si France Musique a pris en charge l'aspect musicologique du métal, France Culture ne s'est pas penché profondément sur le phénomène, contrairement à d'autres styles musicaux comme le punk, qui ont eu droit à des émissions longues sur la station. Mais il est vrai qu'il est parfois difficile de tracer une frontière nette entre les sous-genres du rock, et on peut même parier, sans trop de risques, qu'un pogo de punk et un pogo de metalhead, c'est à peu près la même chose.
Le pogo, c'est pas compliqué, vous prenez des chaussures avec qui sont bien coquées au bout et bien dures, vous vous habillez de façon un petit peu déchirée un peu partout pour être sûr de pas trop abîmer les habits, ou en tout cas on peut les abîmer un peu plus, vous mettez des bagues aux doigts bien épaisses, bien costauds, qui font bien mal, et puis ensuite vous allez taper sur tout le monde en gesticulant dans tous les sens, en essayant de conserver un rythme, j'ai l'impression, je ne sais pas.
Oui, c'est à peu près ça, c'est celui qui cognera le plus fort. Alors, quand on discute, moi j'ai discuté avec mon petit frère de ce genre de danse, il paraît qu'il existe deux sortes de pogo. Alors, il existe le pogo chez les punks et le pogo chez les skinheads. Alors, je peux pas vous dire exactement les différences, excepté dans l'un ou l'autre, je sais plus lequel. Quand on tombe par terre, on marche dessus, et dans l'autre, eh ben, on le ramasse et on continue à danser. C'est tout.
Il y a des filles qui dansent cette danse aussi ?
Des filles, oui, il y en a. Il faut les voir de face pour savoir que ça en est. Parce que une petite demoiselle avec des poignets tout fins, etc., elle prend un coup et elle se casse. Donc il leur faut quand même une certaine résistance. Il faut qu'elle soit quand même imposante.
Corentin Charbonnier, vous connaissiez la différence entre le pogo chez les skins et le pogo chez les punks ?
Bon, je connaissais pas. C'est la présentation du pogo, on va dire.
Ça, c'est une archive de 1991, mais dans laquelle on entend quand même, à la fois la présence de la violence, même si c'est un petit peu mis à distance par une forme d'humour, et puis aussi du sexisme.
La violence, elle est toujours très ritualisée, on va dire, dans le métal. C'est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une multitude de danses, allant du stage diving, en passant par le Wall of Death et autres. Où je retrouve le côté d'avoir les codes, c'est que si vous allez au Hellfest le premier jour, on voit les gens qui s'écartent. Si celui qui ne sait pas reste au milieu, généralement, il y a quelqu'un qui va le chercher. C'est quand même beaucoup plus bienveillant que ce qu'on entendait. Et aujourd'hui, c'est pratiqué aussi bien par les hommes que par les femmes. Cette scène métal, elle abandonne les conventions sociales au départ. C'est un élément que je trouve assez intéressant sur le Hellfest, en tout cas sur les premières vagues, sur les 10 premières années, avant que ce soit, on va dire, ouvert à des nouveaux publics qui viennent, ce qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui sur le Motocultor. C'est-à-dire que la distinction de notre genre, de notre pouvoir d'achat, de notre CSP, tout ça, on le laissait au placard, entre guillemets. On était là pour vivre un événement dans un cadre fermé pendant 3-4 jours, où ça devait bien se passer, où l'important c'est que la communauté devait prendre en compte les différents éléments, donc prendre soin des autres. Si un blessé, on le ramasse. Et on est, entre guillemets, dans toujours cette même représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un festival, c'est un espace où les conventions sociales habituelles de présentation, donc bonjour, je m'appelle machin et je travaille dans tel domaine, ça se remplace par bonjour, je m'appelle machin et j'écoute du métal depuis tant d'années. Ou je viens au festival depuis tant d'années. Et ça reste un élément qui est assez essentiel.
Souvenez-vous la cérémonie d'ouverture des JO de Paris.
Tous les téléspectateurs n'ont pas reconnu ce soir-là le groupe de métal Gojira quand il est apparu lors du fameux tableau de la tête coupée de Marie-Antoinette. Et pourtant, il s'agit de l'un des groupes français les plus connus dans le monde. Son existence est la preuve de la vitalité du métal hexagonal, et cela même si les Gojira chantent en anglais et que les deux frères Duplantier ont une mère américaine. On les entend dans une archive de France Inter dès 2017, dans l'émission Full Sentimental, exactement celle de Didier Varro.
Vous avez réussi à créer un vrai lien avec le public sans les médias. Aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup de vous parce qu'en 2017, vous avez été ce groupe français nommé deux fois aux Grammy Awards. C'est quoi le lien que vous avez réussi à créer avec votre public, Gojira ?
Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus ?
Moi, je pense... Effectivement, on a essayé de, on a tapé à la porte de quelques labels quand on a commencé, ça a pas trop marché. Mais tout de suite, on s'est dit bon allez, il faut y aller, on va jouer. Et on est allé dans des, on a joué dans des bars, on a joué dans des caves, on a joué dans des pizzerias. On a mis les tables ensemble pour monter dessus et faire des shows. On n'a pas attendu qu'on vienne nous chercher quoi. On y est allé de nous-mêmes et ça a plutôt bien fonctionné quoi.
Alors c'est un gros sujet, Gojira, parce qu'on se connaît très bien et depuis assez longtemps, pour les avoir vus au début des années 2000, à leur première tournée. Un set, c'est un groupe qui a toujours eu un fonctionnement un peu à part, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils font de la tournée, mais à côté de ça, ils préservent leur vie privée, ils restent en dehors. Leur cadre de vie a toujours été la campagne et les Landes. Et ils sont très attachés à leur territoire. On le retrouvait dans leur musique dès le départ, une forme d'introspection et de rapport à la nature, qu'on retrouve aussi dans des groupes suédois. Et ils l'ont développé sous forme d'engagement écologique. Alors on l'a vu avec From Mars to Sirius qui intégrait le chant des baleines, on l'a vu avec leur projet Amazonia plus récemment. Et si on reprend même le titre, enfin le nom du groupe, Gojira, on est bien sur un rapport de revanche de la nature sur l'espèce humaine. Donc.
Est-ce que ce groupe, en France, crée une sorte de fierté pour le public français d'avoir comme ça un étendard aussi grand, ou est-ce qu'au fond, ça ne compte pas vraiment et il n'y a pas une scène spécifiquement française du métal ?
C'est un groupe qui compte énormément parce qu'il a réussi à montrer qu'en France, on avait une scène. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, alors on parlait de Trust tout à l'heure, qui n'a jamais vraiment, qui n'a jamais été énorme aux États-Unis ou sur d'autres continents parce qu'ils chantaient en français certainement et qu'en plus leur titre phare antisocial a été repris par Anthrax. Mais on n'a pas une grosse tournée. On a des groupes qui jouent dans la francophonie, entre guillemets, ça fonctionne. Gojira, ils sont allés ouvrir pour Metallica. C'était déjà une forme de reconnaissance absolue pour le public français au début des années 2010. Ils ont fait les JO, ils ont gagné un Grammy. Aujourd'hui, ça permet de montrer en fait qu'en France, on a une vraie richesse culturelle et ça donne à rêver à des nouveaux groupes aussi.
Dans ce dernier épisode, nous avons choisi d'effleurer le continent du métal, mais il y aurait eu mille autres histoires à raconter à partir de ces archives du rock. Au passage, sous l'onglet « Musique » de la plateforme Radio France, on peut retrouver des centaines et des centaines d'heures de croches, de rondes et de soupirs, sans parler de tous les podcasts qui permettent à chacun et chacune de se faire sa propre histoire de la musique à partir de ses propres archives du rock. Mais pour l'heure, comme disait Le Noir...
Salut à tous, caressez bis à l'œil.
C'était Les Bandes du Rock, une série de Salles des Archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, Delphine Lemaire et Lily Corner. Prise de son Antoine Viossa et François Saint-Jour. Mixage Marie-Claire Omabadi. Documentation musicale Antoine Vuillose. Documentation INA Delphine André.
Thank you.